La détresse psychologique des vétérinaires, un fléau que vous ne connaissiez peut-être pas, certains sont très affectés par les malheurs de vos animaux et ça peut même aller jusqu'au suicide. Le docteur Raymond Place fait le point.
On les aime, nos animaux de compagnie, et parfois on les aime à la folie. Et parfois, lorsqu'ils vont pas bien, on se retrouve chez le vétérinaire et puis là, on est, dans certains cas, confronté à une situation très difficile. Et là, vous avez le vétérinaire qui essaye de sauver l'animal, mais qui doit vivre aussi avec le drame de dans certains cas, de l'euthanasie. Puis là, t'es pris avec les deux stress. Celui de sauver l'animal, puis celui de vivre avec la réaction, dans certains cas, très émotive et très agressive, parfois, du propriétaire de l'animal de compagnie. Et là, Sarah Champagne, dans la presse, qui nous dit que au cours des dernières années, là, au cours des 15 dernières années, il y a eu au moins un suicide par année chez les vétérinaires. C'est l'Association des médecins vétérinaires du Québec qui a comptabilisé ça. Ça fait partie d'une étude là, d'une chercheure de l'UQAM, Anne-Sophie Cardinal. Pour discuter donc de ce phénomène et du stress que vivent nos vétérinaires, on va aller rejoindre le docteur Raymond Place, qui est vétérinaire et propriétaire de l'hôpital vétérinaire La Salle. Bonjour, docteur Place.
Bonjour, M. David.
Est-ce que c'est une surprise pour vous d'apprendre ça, ou est-ce que vous, dans le fond, vous le savez, puis c'est juste que vous gardiez ça entre vous?
Ben, je ne sais pas à quel point on le gardait entre vous. C'est sûr que c'est pas d'hier, ce phénomène-là. Les vétérinaires sont confrontés, dans le fond, entre l'aspect financier des soins, qu'il n'y a pas de gratuité, évidemment, pour les animaux, puis le fait que les gens aiment de plus en plus leur animal, mais ils ne seront pas nécessairement en mesure finalement d'accéder aux soins qui pourraient potentiellement les sauver. Et aussi, des fois, on peut les sauver, mais on ne devrait pas les sauver.
OK. Donc, alors,
l'acharnement thérapeutique, c'est ça. Mais c'est toujours la question émotionnelle là-dedans qui fait qu'un... Puis les vétérinaires, ben écoutez, la grande majorité des médecins vétérinaires le font pas pour l'argent, parce que vous comprenez que le salaire moyen des vétérinaires, c'est 75 000 par année. Tous les vétérinaires avaient les notes suffisantes pour être acceptés en médecine humaine, donc un salaire substantiellement supérieur. Quand on choisit cette ligne-là, cette voie-là, ben c'est certainement pas pour des raisons pécuniaires.
Ben là, docteur Place, là, vous me ferez pas broyer sur le sort des vétérinaires, là. J'ai été élevé sur une terre. Là. Vous comprenez que des animaux on en avait, puis des vétérinaires, il y en a un puis un autre qui est venu chez nous. Là. C'est vrai qu'ils travaillaient fort. Mais je dirais pas que c'était des personnes qui avaient pas un bon niveau de vie, là.
Ah non, ben absolument pas. Mais 75 000 par année, c'est quand même bien au-dessus du... Là, je vous parle des animaux de compagnie. Les animaux de ferme font un peu plus. Ceci étant dit, c'est que je vous parle pas de personnes pauvres. Ce que je vous dis, c'est que quand on fait le choix de sauver des animaux, c'est qu'on sait qu'on va le faire à moindre coût. Donc, c'est un choix de vocation. C'est ça qui est mon point.
OK.
Fait que là, on est rendu qu'on veut sauver des animaux, mais on n'est pas en mesure de le faire.
Pourquoi on n'est pas en mesure de le faire?
Pour des raisons financières, parce que le problème qui arrive, c'est que la médecine vétérinaire a évolué énormément dans les 20 dernières années, peut-être les 25 dernières années, et ce qu'on est en mesure de faire pour un animal a énormément augmenté, mais malheureusement, la technologie, ça a un coût, puis les médicaments ont un coût, puis ben ça a augmenté énormément le prix que ça fait pour sauver un animal. Autrement dit, on peut régler un cancer maintenant chez un chien, mais évidemment, c'est pas pour 22,5 $.
Combien ça coûte soigner un cancer sur un chien, juste pour me donner une idée, là?
Ah, écoutez, j'ai vu des 35 000 $, là.
35 000?
Ben oui, j'ai un de mes clients, moi, que son chien avait un cancer du bassin, puis il s'est ramassé à Guelph pour faire de la radiothérapie, parce que ça se faisait pas ici. Il est arrivé à Guelph au 2 mois, plus les traitements ici dans les centres spécialisés, plus les suivis dans mon hôpital. Ça y a fini pour écouter un 30-35 000, là, mon monsieur. Là.
Ah ben là,
fait qu'on peut aller jusque-là. Là, je vous compte évidemment des extrêmes.
Oui.
Mais on peut pas régler un cancer pour peu. C'est ça qui est le point. Réparer un genou, on peut le faire pour un 1 500 $, mais ça peut monter jusqu'à 4 000, 4 500, et c'est beaucoup de sous, là.
Et là,
technique-là n'était pas disponible à l'époque. Fait qu'on n'était pas confronté à ça.
Et là, ce que vous nous dites, c'est que dans certains cas, il y a des propriétaires de chiens ou de chats, ou peu importe, ils sont au courant de ça, là. Ils savent que ça existe. Ils se font, mettons, t'es propriétaire du chien, tu te fais ton chien que t'adores se fait diagnostiquer un cancer. Et puis là, le vétérinaire dit, ben écoutez, c'est un cancer. Ben qu'est-ce que vous pouvez vous faire quelque chose? Ben oui, mais ça va coûter cher. Puis là, t'as pas les moyens de payer.
Et voilà.
Et là, il arrive quoi? C'est un pétage de coche en règle? Et puis là, c'est
oh,
là
qui... Non. Le client agressif, ça va arriver, mais c'est très, très, très rare. Puis c'est pas ça que je vous dirais. Moi, quand le client agressif, moi, je vois ça comme une réaction temporaire. C'est très, très rare que ça arrive. C'est pas ça qui est le problème. C'est pas le client agressif qui est le problème. C'est le client correct, mais qui font alarme. C'est bien pire. Là, moi, vous dire, moi, ici, quand une situation comme ça se présente, là, le personnel, là, quand si vous rentrez le prochain client à l'hôpital, là, vous la sentez, la densité, parce que le personnel au complet est affecté. Là. C'est pas le fun d'avoir à dire à quelqu'un, ton chien est sur le point de mourir, puis là, on va lui mettre ses traitements palliatifs, puis dans les prochains, peut-être, 2, 3, 4, 5, 6 semaines, ben prépare-toi mentalement, parce que tu vas le perdre.
Alors que tu pourrais le sauver si tu avais de l'argent.
Exactement. Ben, sauver, c'est relatif. Vous comprenez que moi, ma job, c'est de retarder l'inévitable. Là. Mais peu importe l'âge de l'animal. Mais tu sais, on peut aller en chirurgie avec un animal qui est malade, sachant pertinent qu'il est malade. Mettons, il faut opérer pour une tumeur un chien qui est âgé. Les gens ont les moyens, mais le risque de l'intervention est élevé. Puis on l'explique aux clients. On dit, écoutez, on a 10, 15, 20 % de chances de décès sur la table. Les gens n'entendent pas le 20 %, ils entendent le 80 % que ça risque de fonctionner. Puis là, l'animal décède sur la table. Puis là, on le rappelle pour leur annoncer la mauvaise nouvelle. Ça aussi, c'est difficile. C'est très, très difficile.
Alors, faites-moi le lien entre tout ce que vous venez de nous décrire, puis j'en apprends beaucoup, je vais vous dire bien franchement dans ce que vous me dites, et les suicides.
Bien, en fait, c'est que... Tant ou longtemps que l'humain ou l'animal a l'impression qu'il y a une solution, il y a une porte de sortie, probablement qu'il peut il peut gérer, mais le jour où t'es pris, t'es un vétérinaire employé, donc t'as pas d'impact sur, t'as pas d'emprise sur la facture, puis t'as le client que t'as pas d'emprise sur son portefeuille, puis là, t'essaies de sauver un animal, puis t'es pris entre le mur et la peinture, ben tes options, c'est quoi? C'est d'accepter la situation puis d'apprendre à vivre avec. Ce que la grande majorité font. Il y en a une certaine minorité qui tout simplement abandonne le milieu. Moi, j'ai eu des employés qui ont décidé qu'ils ne seraient plus vétérinaires puis qu'ils sont réorientés en médecine humaine. Puis, il y en a d'autres que malheureusement, c'est la dépression. Puis, dans ceux qui font une dépression, bien, il y en a qui se suicident. Ils vont jusqu'à l'extrême. Dans le fond, c'est qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont plus de contrôle. Ça devient émotif. Ils sont devant un cul-de-sac. Ils veulent sauver les animaux, puis ils ont l'impression qu'ils ne sont pas capables de le faire.
Wow! Puis ils ne peuvent pas, à un moment donné, pour reprendre votre exemple, ils ne peuvent pas arriver puis dire, regarde, le traitement à 10 000 ou à 15 000 ou à 20 000, je sais que tu n'as pas l'argent pour le payer, fait que je vais le faire pareil, puis je vais le sortir de mes poches le jour où tu commences à faire ça, évidemment.
Non, mais en fait, c'est qu'on le fait déjà. On le fait déjà. Ici, nous autres, on a une enveloppe faite pour ça. C'est sûr qu'on, dans certains cas, on va élargir ça. Le problème, c'est qu'ici, mettons, c'est un hôpital. Mon client, moi, qui est allé revirer à Guelph, là, c'est même pas disponible au Québec. Moi, je peux pas payer sa facture. À rigueur, je peux accepter de faire du temps, du ce qu'on appelle du pro bono, mais je peux pas faire ben plus que ça. Fait que lui, quand il s'en va dans un centre, dans une autre province ou aux États-Unis, vous comprenez que là, il faut qu'il débourse. Là, évidemment, encore une fois, je parle de cas extrêmes, mais on peut pas payer les factures d'experts, là.
Souvent,
c'est qu'on on peut même pas. Dans ce genre de situation-là, souvent, on n'a même pas cette option-là.
Mais je veux juste bien comprendre, docteur Place, là. Je veux juste. C'est quoi? C'est l'accumulation à un moment donné de frustration, le sentiment que dans le fond, t'es pas toujours capable de sauver les animaux qui sont sauvables. Il y en a qui sont sauvables, puis t'es juste pas capable parce que le client peut pas payer ou parce que...
Des fois, c'est même pas qu'il peut pas payer, c'est pas qu'il veut pas payer, mais on vit aussi l'inverse. C'est que moi, j'ai vu des clients, puis dans le fond, l'euthanasie, c'est un couteau à deux tranchants, c'est que des fois, c'est utilisé à mauvais escient, puis d'autres fois, on devrait l'utiliser, puis on le fait pas. Et ça m'arrive de mettre la main sur l'épaule d'un client ou d'une cliente, tu dis, écoute, là, c'est assez, là.
On prolonge
sa souffrance, pas sa vie.
Ah, l'acharnement.
Et voilà. Mais ça aussi, ça existe. Mais c'est difficile. C'est difficile à vivre, voir un animal souffrir. Parce que nous autres, c'est sûr qu'on n'évalue pas la souffrance d'un animal de la même manière. On est plus apte à déterminer si un animal va bien ou va moins bien. Puis souvent, les gens vont arriver et vont dire, il y a pas mal, mon chien. Mais j'ai dit, il boit de ton chien, donc il a mal. S'il n'avait pas mal, il s'en servirait. Les gens ne comprennent pas.
Docteur Place, j'ai beaucoup d'appels. Je vais vous remercier là-dessus. Vétérinaire, propriétaire de l'hôpital vétérinaire La Salle, c'était très clair. Merci.
Ça m'a fait plaisir.
Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Est-ce qu'il y aura moyen éventuellement de faire baisser le coût de ces assurances-là pour éviter des drames? Hein? Bonne question.
Dans quelques minutes, Biz sera avec nous pour nous parler de la chute de Sparte.